18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 mai, il est 18h, passé de quelques secondes et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale de Radio U. Au programme ce soir, eh bien, vous avez tous hâte, j'en suis sûr, que les terrasses rouvrent et vous avez hâte de siroter un verre sous la pluie brestoise. Et oui, c'est ce qui risque d'arriver, mais je pense qu'on a tous encore plus hâte de retourner voir des concerts. Et pour savoir ce qu'il se passera du côté du port de commerce et de la Carène plus précisément, eh bien, nous aurons tout à l'heure au téléphone Mathilde Vigouroux, la chargée de communication de la salle des musiques actuelles brestoise. On discutera de la réouverture et de la programmation. Mais commençons tout de suite à parler de sport. Et oui, un peu de sport, ça fait jamais de mal et on n'en parle pas souvent dans cette quotidienne. Les 12 et 13 juin prochains, une compétition aura lieu dans la Rade. C'est le Grand Prix de l'école navale. Il devait fêter ses 20 ans cette année, mais bon, étant donné la période assez compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien les 20 ans seront fêtés l'année prochaine. Mais, la bande d'Alain Daoulas a tout de même réussi à monter un événement. Je l'ai eu au téléphone dans la matinée pour en discuter. On écoute ça tout de suite. Alain Daoulas, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le commissaire nautique du Grand Prix de l'école navale, le Grand Prix de l'école navale qui aura lieu les 12 et 13 juin dans un format un peu particulier cette année, si j'ai bien compris, pour les 20 ans du Grand Prix de l'école navale. Plus de 20 ans.
Non, c'est la 20e année, mais qu'on fêtera plutôt l'année prochaine d'ailleurs. Hein. Cette année, c'est une épreuve qui a été, modifiée, puisque Covid faisant, on n'a pas pu accueillir le cœur de l'épreuve qui est associé à la réunion de tous les monotypes habitables. Donc, cette année, nous avons changé de programme et nous nous sommes orientés vers des épreuves individuelles de glisse. La glisse que nous avons aussi accueillie par le passé avec des épreuves de paddle. Donc cette année, nous accueillons la classe windsurfer et la nouvelle pratique là, du windfoil qui est en train de monter en flèche. Hein.
Voilà. Alors,
sur deux sites, Roscanvel, le site de Roscanvel,
ça c'est pour le windsurf, si j'ai bien suivi.
Ça c'est pour les windsurfers, et puis le windfoil sur le plan d'eau du Poulmic. Le plan d'eau, un magnifique plan d'eau également, sur lequel l'AC45 Groupama, avec Funkama, s'est entraîné pendant 6 mois, il y a quelques années. Donc un plan d'eau parfaitement adapté au foil et qui donnera lieu à certainement de belles compétitions, des compétitions qui seront d'ailleurs, hein, puisque la pratique est nouvelle, ouverte à tous. C'est très important de le signaler, puisque concernant windfoil, c'est vraiment la première année où cette nouvelle pratique se met vraiment en place avec la Fédération française de voile. Donc des parcours nouveaux seront mis en place, des parcours aménagés aussi pour ceux qui débutent la pratique. Et tout cela se fera sous la coupe d'Olivier Le Gouic, qui est donc au comité départemental de voile du Finistère, mais aussi arbitre maintenant à la Fédération française de voile.
Alors pour nos auditeurs qui ne seraient éventuellement pas familiers des nouvelles pratiques de glisse et de voile, est-ce que vous pouvez décrire, expliquer un petit peu ce que c'est le windfoil?
Alors, le windfoil, c'est une... D'abord, il y a le mot foil dedans, donc ça veut dire que c'est un engin qui vole au-dessus de l'eau. Et c'est un engin qui a la particularité de ne pas avoir de mât. La voile est tenue par les bras, hein, qui montent une espèce de voile en forme de kitesurf, mais une voile gonflable, avec un bord d'attaque gonflable et puis du tissu léger, hein, qui une sorte de tissu à spi, hein, qui donne la forme générale.
Oui, et ça donne des visuellement, en tout cas, c'est assez impressionnant.
Alors, c'est tout à fait. Ce sont des engins qui arrivent maintenant à planer dans très peu de vent. Et ce sont des engins qui sont qui nécessitent évidemment un apprentissage. Mais bon, ça correspond aussi à l'air du temps, c'est la pratique individuelle et puis le potentiel de pouvoir voler facilement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour ce support qui se développe en flèche, comme je le rappelais tout à l'heure.
Ouais. Alors, vous le disiez aussi hein, tout à l'heure, normalement, le Grand Prix de l'école navale, c'est une épreuve phare. D'ailleurs, ça fait partie du championnat de France de monotype habitable. Est-ce que là, c'est finalement une déception de pas avoir un Grand Prix de l'école navale, entre guillemets, normal, ou une satisfaction d'avoir quand même un Grand Prix de l'école navale ?
Ah bah, bien sûr, c'est bien sûr dommage, comme tous les organisateurs d'événements, de ne pas pouvoir réaliser le cœur de métier, entre guillemets, de toutes ces pratiques mises en place. Mais en tout cas, nous avons voulu quand même, malgré tout, malgré les contraintes, malgré les incertitudes, tenir bon la barre et puis proposer quelque chose quand même cette année, certes pas au moment de l'ascension, puisque le Grand Prix de l'école navale a lieu tous les ans à l'ascension, mais sur une période qu'on a trouvée d'une manière en liaison directe avec le comité départemental de voile et la Fédération française de voile et puis les organisateurs divers aussi qui font des courses, qui se relancent dans les courses au mois de juin. Mmh. Voilà, donc nous avons trouvé cette date de mi-juin, et donc on est très content aussi de pouvoir proposer cette épreuve de glisse cette année. Donc c'est évidemment pas de championnat de France monotype, mais quand même une épreuve de glisse en sport individuel. Voilà, donc on est toute l'équipe du Grand Prix de l'école navale évidemment sur le pont pour réussir ce challenge qui ne sera pas sur 3 jours cette année, mais sur 2 jours simplement, le samedi 12 et le dimanche 13 juin.
Alors, en parlant de l'équipe, si j'ai bien compris, des étudiants de l'école navale prennent aussi une part très active dans l'organisation.
Voilà, donc ce sont les élèves hein, de l'école navale qui sont à la barre pour l'organisation de l'épreuve de Wingfoil. Donc c'est un projet qu'ils mènent dans le cadre de leur projet élève, hein, chaque élève doit monter un projet pendant son passage à l'école. Mmh. Donc là, c'est un projet qui permet de rentrer en relation avec les instances maritimes, avec les instances sportives, avec aussi les élus locaux, avec le monde associatif. Donc c'est très intéressant pour eux. C'est valorisant aussi. Ça permet d'être sur le terrain, de monter des projets. Et en ce sens, on espère réussir tous ensemble avec les élèves cette épreuve le 12 et le 13 juin.
J'ai vu aussi en consultant l'avis de course qu'il y avait une démarche environnementale, elle n'est pas nouvelle d'ailleurs, au Grand Prix de l'école navale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Oui, tout à fait. Le Grand Prix de l'école navale a été un des premiers événements à mettre l'accent très fort sur la démarche environnementale. Nous avons rempli des chartes avec la région Bretagne. Nous avons aussi eu des démarches fortes avec, dans le cadre de Natura 2000, nous avons travaillé aussi avec le parc d'Armorique. Donc, on essaie de faire le moins de déchets possible. On a évidemment des directives que l'on donne aux concurrents pour ne rien jeter. On a des boîtes à mégots. Et puis, concernant l'eau, bon, cette année, ça sera un peu particulier. On essaie, en tout cas, de proposer aux personnes des gourdes individuelles. Mmh. pour qu'ils puissent prendre de l'eau et non ne pas utiliser de bouteilles plastiques.
Ouais. Et en termes d'organisation, mais là plutôt de course, j'ai vu pareil sur la vie de course. Donc il y aurait 6 courses maximum par jour. Alors évidemment, quand on organise des événements de voile, on est forcément tributaire du temps. Donc c'est pour ça que c'est 6 courses maximum. Voilà dans cette dimension-là, quand on disait que c'est ouvert à tous, c'est que c'est physiquement bon, faut être prêt. Mais ça reste très ouvert.
Ah oui, alors, 6 courses, oui, on espère y arriver. Alors, concernant la windsurfer, puisque la windsurfer, c'est la planche, c'est par là qu'a commencé l'aventure de la planche à voile. Hein. Mmh. Donc, cette windsurfer a été remise au goût du jour récemment, notamment par, l'entreprise Exocet, qui est donc basée au Relais Quiruon, qui importe, qui a relancé cette dynamique windsurfer. Les windsurfers, ce sont des planches d'environ de 3,60 m qui permettent de naviguer pratiquement par tous les temps, avec une voile très simple, hein, et puis un panel de coureurs qui va des plus jeunes aux plus anciens. Donc c'est vraiment un joli melting pot sportif, comme on dit. Ces planches-là, ou une surfeur, disputeront certainement le nombre maximum de courses qui seront prévues. Concernant le windfoil, bien évidemment, puisqu'il y a le mot foil dedans, il faut pouvoir voler sur l'eau, donc il faut un minimum quand même de vent. Mais ce qu'on peut voir sur les plans d'eau maintenant, c'est que plus la pratique monte en niveau, plus le décollage sur foil se fait tôt. Et avec très peu de vent, maintenant, on voit des wings qui foilent. Et c'est vraiment un très beau spectacle.
Est-ce que vous avez une idée pour l'instant du nombre de participants qui sont engagés? Je rappelle que les inscriptions, comme on l'a dit, hein, c'est ouvert à tous. Et c'est ouvert jusqu'au 5 juin.
Voilà, alors bien évidemment, il faut s'inscrire le plus tôt possible, notamment pour les windfoils, puisqu'il y a des conditions d'accès sur le site de l'Enveop Poulmic, hein, qui est un site militaire. Donc il faut pas trop tarder non plus. Après, sur le nombre d'inscrits, aujourd'hui nous sommes à une bonne vingtaine d'inscrits en windsurfer, et nous avons dépassé nous arrivons à une quinzaine aussi également en windfoil. Nous sommes donc encore à 3 bonnes semaines de l'événement. Donc voilà, donc on espère un beau panel de concurrents sur l'épreuve.
Oui, une épreuve qui s'annonce bien. En tout cas, si vous avez déjà une vingtaine d'inscrits
semaines. Oui, et puis... voilà, en sachant que c'est la semaine du déconfinement cette semaine, les gens vont reprendre un peu vont commencer à reprendre des habitudes. À avoir plus de liberté. Donc voilà, et puis il y a la date aussi du 9 juin, hein, qui est importante, et donc nous sommes situés le 12 et 13 juin. Donc on espère bien effectivement que les personnes, avec ce déconfinement qui se précise, vont s'inscrire. Et que, en tout cas, pour l'instant, quand on fait un bilan des concurrents que nous avons beaucoup de régatiers, ou d'anciens régatiers en windsurfer. Mmh. Ça, c'est un fait marquant. Et côté windfoil, nous avons beaucoup de jeunes, et aussi des coureurs qui sont passés du kite au wing. Donc voilà, c'est un peu aussi dans cet esprit-là que on va voir un peu tous les concurrents sur le Grand Prix, des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux pratiquants. Des gens qui débutent, donc les gens qui débutent, hein, pour le wing, notamment nous proposerons des parcours adaptés. Ça, ce sont des questions que nous avons eues souvent par mail, hein, savoir s'ils pouvaient participer, bien que le niveau n'était pas encore vraiment acquis. Donc ça, oui, évidemment, puisque c'est une nouvelle pratique avec Olivier Le Gouy, qui est la Fédération française de voile et l'école navale. Nous allons bien évidemment faire bien attention à proposer des parcours cohérents en fonction du niveau.
Ça veut dire qu'il y aura plusieurs catégories, enfin je dis ça comme ça, mais peut-être des catégories débutants et d'autres confirmées.
Alors ça, on va découvrir la pratique. Et évidemment, on adaptera en fonction du niveau qu'on aura vu sur l'eau. Il y aura des parcours basiques, et puis peut-être qu'on pourra, durant le week-end, peut-être proposer aux plus sportifs des parcours de longue distance.
Une dernière question, Alain Daoulas, pour le public qui aura envie de voir, parce que le spectacle risque d'être magnifique sur des sites qui sont tout aussi magnifiques. Est-ce que ce sera possible de venir? Comment on pourra faire?
Alors, concernant les windsurfers, donc le site de Ross Candel, évidemment, qui est un site ouvert, permettra de voir les courses soit au niveau de Ross Candel, soit sur le chemin côtier, soit sur au niveau de Kellern. Ça, il n'y aura pas de problème de ce côté-là au niveau visuel. Côté Wingfoil, là par contre, nous sommes sur un site militaire, donc ça sera. Pour cette année en tout cas, puisque le site ne sera pas ouvert au public, ça concernera les gens qui se seront inscrits simplement.
Ok. Bon, ça veut dire que le public pourra quand même voir en tout cas des windsurfers.
Les windsurfers et les wings en rade lors des parcours longue distance.
Ouais, c'est ça.
Mais pas sur le site de l'école navale.
Ok, très bien.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Alain Daoulas d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Et bon vent à Radio U.
Bon vent au GPEN, comme on dit, le Grand Prix de l'école navale. Je rappelle que ce sera les 12 et 13 juin. Merci encore Alain Daoulas.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Et on rappelle que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juin, mais faites vite, hein, ça les arrange si vous inscrivez un petit peu plus tôt. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du GPEN, le Grand Prix de l'école navale. Et le tout, c'est pour la modique somme de 30 euros. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est ouvert. Et comme le rappelait Alain Daoulas, c'est ouvert même aux débutants sur la compétition de Wingfoil. Une pause en musique avec le titre English Disease du groupe Hotel Lux, et puis on revient juste après pour parler de la réouverture des lieux culturels, notamment et surtout de la Carène. On sera au téléphone avec Mathilde Vigouroux.
In the English disease, off-license tinnies and prison rollies, and I Google parlay to see what it means. The locals love the jukebox nostalgia, old Viral into Frank Sinatra. Give me some old school tit for tat. There's something about a prior spat.
We're all in a party, instead of us, well, the reference is such a dandy dial. We're all in a party, instead of us, well,
Et vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites sur le 101.1 de Radio U, la quotidienne d'info locale. Chose promise, chose due, hein, en début d'émission, on vous annonçait une interview de Mathilde Vigouroux, chargée de communication de la Carène, pour parler de la réouverture des lieux culturels et surtout de la réouverture de la Carène. Est-ce que tu nous entends, Mathilde ?
Oui, très bien.
Ah, parfait.
Salut à tout le monde.
Non, mais on n'est jamais rassuré avec la technique, surtout moi. Je dois bien avouer.
En tout cas, je t'entends très bien.
Bon, c'est parfait. Donc, à partir de mercredi, hein, c'est la date fatidique, les lieux culturels auront le droit de rouvrir leurs portes, en tout cas d'accueillir un peu de public, puisque vos portes n'ont jamais été complètement fermées, on y reviendra. J'imagine que ça va vous faire du bien, non ?
Oh là là, c'est très 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 attendu, hein. Pour nous, pour l'équipe, mais aussi pour le public et puis pour les artistes qui patientent aussi depuis un bon petit moment. Donc oui, c'est mercredi le 19, il y aura aussi l'ouverture des terrasses.
Ouais.
Donc ça, on sait que voilà, les Brestois sont dans les starting blocks pour en tout cas réserver la table promise. Donc on laissera un petit peu le temps de se remettre un peu de tout ça, et puis samedi on ouvrira vraiment, ça y est, les portes au public brestois.
Alors avant de parler justement de la programmation et de ce qu'on va pouvoir voir à la Carène, en tout cas les chanceux, parce que là on y reviendra, mais les jauges sont légèrement réduites, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais.
Comment vous avez vécu, vous, à la Carène, cette période là de fermeture, ou en tout cas de pas de concert, d'un point de vue humain?
Eh ben, j'ai envie de te dire un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que déjà il y a eu deux périodes, hein, parce que il y a eu cette première fermeture, mais qui était ce premier confinement en mars 2020, qui a été un peu une période inédite, mais pour toute la population. Donc on a eu une première ouverture de septembre à octobre, finalement un petit mois où c'était déjà assez fort de retrouver le public, les artistes sur une configuration inédite avec un en mode cabaret, hein, dans le hall. Et puis là, ça fait quand même sept mois de fermeture. Enfin, en tout cas, 7 mois de fermeture de la Carène.
Mmh.
Pas de fermeture complète, parce qu'on a continué à faire en fait beaucoup de choses et à faire vivre ce petit bout de culture si essentiel, hein, en tout cas à nos yeux, et avec les résidences d'artistes, avec l'action culturelle. Donc il y a beaucoup de choses qui ont continué. Voilà,
justement, tu peux nous dire un mot de ce que vous avez réussi à faire malgré cette période là, pendant les 7 mois, les très longs 7 mois.
Les très longs 7 mois. Alors on a, pendant cette période, finalement on a intensifié tout ce qui était accueil d'artistes professionnels en résidence à la Carène, des résidences dans le club, dans la grande Carène et dans les studios ou des travaux d'enregistrement. Donc ça, on a pu maintenir, et on a aussi pu intensifier tout ce boulot-là qu'on fait d'habitude, mais de façon plus ponctuelle, parce que les salles sont prises, hein, par les concerts. Mais on a, enfin, juste pour avoir une idée, on a accueilli au total, on a dû accueillir depuis septembre 66 groupes pour des travaux de résidence. Mmh. Donc ça fait quand même 277 jours de travail de résidence, et c'est pas rien. Et c'est important pour nous de continuer ce travail, parce que on le sait, il y en a pas mal parlé dans l'actualité. Tout ce travail de résidence, c'est aussi des cachets d'intermittence qui sont faits pour les artistes. Donc c'était important de continuer à soutenir ça, et de continuer à pouvoir jouer aussi sur scène, et puis à travailler à cette reprise.
Mmh.
Parce que les groupes doivent aussi, faut pas croire, hein, c'est un entraînement, enfin. Il y a des choses qui peuvent se perdre en un an, donc ça, on a continué. Puis il y a eu aussi tout le travail d'action culturelle.
Ouais.
Qui a été bien rempli, parce qu'il y a des projets dans les écoles, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales. Il y a aussi tous les projets d'action sociale, avec des projets qu'on a pu faire à Emmaüs, des projets qu'on a réalisés aussi avec des jeunes mineurs isolés étrangers. Voilà. Et puis il y a eu aussi des petites... On a pu faire des petites tournées et des petites représentations avec des concerts en halte-garderie, en centre de loisirs. Voilà. Il y a aussi eu des concerts chez l'habitant.
Ouais, sympa ça.
Voilà. On a travaillé avec une structure pour justement aller chez les personnes dites isolées. C'était avec François Joncourt, c'était des concerts adaptés d'une demi-heure chez l'habitant. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses de montées.
Et Mathilde, du coup, tu parlais des artistes qui étaient en résidence à la Carène. J'imagine que tu les as côtoyés, tu as discuté avec eux. Comment ils l'ont vécu, eux, cette période? Ça devait être super compliqué.
À la dépression. Non, c'est... non, en vrai, oui, c'est compliqué, mais je pense que... alors, ce qui est compliqué, alors après, je pense que tout le monde prend son mal en patience. Il n'y avait pas... Enfin, il n'y a pas d'autres choix, finalement. Mais c'est vrai que je pense à certains groupes, donc pas forcément des groupes que j'ai côtoyés, mais c'est vrai que avant cette grande période de fermeture, il y a aussi beaucoup d'artistes en développement qui peut-être commençaient à percer, mais qui avaient beaucoup de dates de prévues, beaucoup de promotions qui arrivaient, des sorties d'albums, et tout s'arrête d'un coup. Il y a une certaine violence quand même là-dedans. Donc, c'est en tout cas. Pour les artistes que nous on reçoit, rien que le fait de pouvoir en fait avoir accès à une scène, de pouvoir continuer à créer, c'était un peu une, il y en a beaucoup qui arrivaient, c'était une sacrée bouffée d'oxygène en tout cas, rien que de pouvoir se retrouver. Enfin,
ouais.
Des groupes, ils vivent pas ensemble, donc finalement de pouvoir se retrouver pendant une semaine plongée dans une semaine de création, c'était super super important quoi.
Ouais, finalement le plus dur c'était peut-être pour les artistes émergents qui n'ont pas eu la chance d'être en résidence chez vous.
Il y a beaucoup, mais c'est pareil, après là on parle bien d'artistes qui sont professionnels, parce qu'on pouvait accueillir que uniquement des professionnels dans nos locaux, c'est-à-dire des intermittents, des gens qui vivent déjà de la musique et des gens qui étaient rémunérés pour venir travailler. Donc on est déjà sur des artistes, on va dire, accomplis. Il y a aussi ce qui est dur et ce qui est assez invisibilisé, on va dire, dans le débat, c'est toute la musique amateur, parce qu'il faut pas oublier que la Carène, c'est des studios de répétition également. C'est quand même 400 musiciens qui répètent à l'année dans les studios de la Carène. 400 musiciens, beaucoup de musiciens amateurs. Et on a essayé un peu de prendre la température d'ailleurs auprès des musiciens amateurs, et c'est vrai que ils nous ont fait part aussi de leurs difficultés. On va voir un peu le bilan à la reprise de combien de groupes ont tenu, combien ont décidé finalement d'arrêter des projets. C'est quelque chose qui est pas évident non plus.
Ouais. Eh ben, justement, on va essayer de retrouver un peu le sourire, de se projeter. Donc, Mathilde, vous organisiez là à 17h une conférence de presse à la Carène pour parler de la réouverture. Juste avant de nous expliquer le programme à venir, est-ce que il y a eu beaucoup d'annulations, parce que il y a eu de la reprogrammation à la chaîne, j'ai envie de dire quasiment décalé puis décalé. On a vu passer quelques annulations. Je pense, je sais pas, il y a pas longtemps, on a vu l'annulation définitive du concert de Tiken Jah Fakoly. Est-ce que vous avez eu tant que ça d'annulations ou vous arrivez à reprogrammer?
Alors il y a beaucoup alors au maximum faut savoir que au maximum on a essayé de reporter et de trouver des dates de report avec les artistes et puis les producteurs donc des fois des dates qui peuvent arriver jusqu'en là en 2022. Il y en a qui ont décidé en tout cas de prendre les devants et d'aller beaucoup plus loin. Tiken Jah Fakoly par exemple, on était sur un troisième report.
Ouais.
On a fait beaucoup de mise en vente, annonce, report, annulation, des fois annulation, puis nouvelle date. C'est ce qui s'est passé pour IAM. IAM, on avait eu une annulation. Un report, une annulation, et finalement le groupe a décidé de reprogrammer sa tournée. Mais on a vraiment passé notre temps à faire ce petit jeu de ce petit casse-tête chinois quoi.
Ouais,
un espèce de Tetris des dates. C'était quelque chose. C'était un vrai. Je pense que ça a été un sport intense pour tous les programmateurs des SMAC, des SMAC et des salles de concert de France et de Navarre et du monde.
Ouais. Vous avez encore des cheveux ou non? Vous les êtes tous arrachés?
Je pense qu'il y en a pas mal qui ont, en tout cas, ils ont perdu pas mal. Ça, c'est sûr. c'est un vrai challenge hein, de pouvoir reporter en fait et recaler toutes ces dates. Et c'est vrai que on se retrouve avec. De temps en temps, là, parce que c'est des dates qui sont reportées aussi sur l'automne, le printemps prochain.
Ouais.
On est déjà sur des dates qui repartent un an après, et c'est assez compliqué.
Ouais, c'est sûr que ça doit être un sacré Tetris, ouais, comme tu dis, un sacré casse-tête.
Ouais. Mais et puis après il y a les problématiques. Tu parlais de Tiken Jah Fakoly tout à l'heure. Tiken Jah, il est c'est plus facile de reporter et d'anticiper en tout cas avec des artistes français ou européens.
Ouais.
Mais on a des artistes les artistes sur l'international, ça dépend aussi des consignes sanitaires et de ce qui se passe en fait dans la vitesse à laquelle ça se passe aussi dans chaque pays et quelles contraintes ils vont avoir pour voyager, pour se déplacer. Enfin voilà, c'est en tout cas les tournées internationales, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que sur déjà du niveau sur le national, quoi.
Ouais, l'expression le flou artistique colle bien à la situation là.
Ouais, oui. C'était le flou artistique, ouais. Je suis flou de toi. Ouais.
Pour parler de la réouverture, tu le disais un petit peu plus tôt, la carène, ce sera pour samedi prochain. Tu peux nous annoncer un petit peu alors ce qui va se passer?
Enfin.
Ouais, enfin.
Donc ça, on a annoncé la semaine dernière. Il y a même pas une semaine en fait. La reprise, on a pu vu qu'on avait déjà eu un premier entraînement en septembre. L'année dernière,
ouais,
on a pu en fait là être beaucoup plus réactif, savoir comment est-ce qu'on allait gérer ça et proposer du coup une ouverture assez rapide. Donc ça commencera samedi prochain, 22 mai, dans la Grande Carène avec l'Orage, Arnaud Le Guéflec. Mmh. C'est un artiste qu'on suit beaucoup, c'est un artiste de Brest qui est en pleine actualité avec notamment sa bande dessinée qui vient de sortir qui s'appelle Underground. C'est un artiste qu'on connaît très bien à la Carène et que les Brestois connaissent bien. Donc voilà, et ça débutera. On est parti, donc pour l'instant il y a toujours un couvre-feu qui va passer à 21h. Et nous, on a décidé, par exemple, samedi, de mettre ce concert assez tôt, c'est-à-dire à 18h. Ça durera à peu près 1h15, pour laisser aussi l'opportunité au public, justement, d'aller boire un verre après le concert. Parce que nous, pour l'instant, pas de terrasse. Donc le bar sera fermé à la carène, pour le moment.
Ok. Il reste encore des places ou ça y est, tout est déjà parti?
Non, sur cette date, qui est très courte, pour l'instant, sur cette date, il reste encore des places.
Voilà,
il y a des concerts où ça part beaucoup plus vite. Il faut savoir qu'on est à peu près sur, là, des jauges. Donc, c'est en gradin, dans la Grande Carène. Mmh. Et on est à peu près sur des jauges à 150 personnes maximum, quoi.
Ouais, donc voilà, si vous nous écoutez en ce moment, vous pouvez directement aller sur le site de la Carène, l'onglet billetterie. Je pense que ça risque de partir vite.
Ça part vite, notamment là après, on va avoir du jeune public, c'est Pirates Patates, c'est Arnaud Le Guéflec aussi. Mmh. C'est un spectacle pour les petits, mais pour les grands aussi, parce que moi je l'ai vu en décembre, par exemple, en sortie de résidence avec l'équipe de la Carène, et je peux vous dire que j'avais vraiment l'impression d'aller au spectacle de fin d'année de l'école avec ma classe,
ouais.
De grands enfants, mais c'est vraiment super. Et ça, c'est donc il y en a déjà eu plusieurs des spectacles faits par cette troupe conduite par Arnaud Le Guéflec, et c'est assez suivi. Et la date du samedi 29 mai, elle annonce quasiment complète. On va peut-être remettre une dizaine de places en fin de semaine, mais voilà, ça c'est parti très très vite. Il y a une deuxième date le mercredi 9 juin qui marche très bien aussi. Donc si vous êtes des grands enfants ou que vous en avez, eh ben ça faut pas traîner.
Ouais, faut pas passer à côté, ça.
Non, faut pas passer à côté. Après, on enchaînera du coup le vendredi 4 et le samedi 5 juin avec Mervyn.
Ouais, on les présente plus, hein, je pense, ici.
Voilà, c'est un peu leur fief, hein. Donc ça, c'est pareil, on a eu l'occasion, nous, de suivre cette création de spectacle qui a été vraiment réfléchie, justement, pour s'adapter à un concert, à un public assis. C'était un vrai questionnement que les Mervyn avaient.
Ouais.
Voilà, ils ont fait tout un travail de mise en scène avec beaucoup de jeux de lumière. C'est assez bluffant. Et pareil, le vendredi 4, la date est déjà complète.
Ok.
Et le samedi 5, il reste des places. Mais voilà.
Mais dépêchez-vous, ouais, voilà. c'est ça.
Et c'est pareil, ça, on est toujours sur des couvre-feux à 21h, donc c'est un concert c'est une ouverture des portes à 19h, au début du concert, 19h30, enfin voilà, on a choisi d'ouvrir, en fait, sur ces dates, il n'y aura pas de première partie.
Mmh.
Voilà. On est sur le temps est assez compté avec les couvre-feux, du coup on va droit au but, quoi.
Ouais. Et si d'ailleurs j'en profite pour dire aux auditeurs, s'ils veulent avoir plus d'explications sur justement ce spectacle de la part directement des Mervyn, je les invite à réécouter l'émission en commun avec Fréquence Mutine et Radio U qui se passait au Quartz Occupé. Vous trouverez les podcasts sur les sites internet des deux radios. Et il y a d'autres choses prévues au programme,
après,
Mathilde.
Il y a Kid Francescoli le 11 juin.
Ouais.
Voilà, électropop, donc on va voir ce que ça donne. Bah si.
Mais, oui, c'est peut-être le pari le plus risqué, non?
Ben, je suis même pas sûre. Souvent, quand on a commencé, il y a un an, franchement, quand on s'est dit, on s'est vraiment dit, ah non, assis, ça va pas être possible, c'est pas envisageable. Finalement, là, je crois qu'après un an, tout est envisageable.
Ouais.
Tout le monde est partant pour tout. Enfin, on le voit, que ça soit de la part et des artistes, des équipes, mais aussi du retour du public. Quand on peut lire quand même sur les réseaux, assis, debout, allongé, enfin, on voit les commentaires, je m'en fous, je veux y aller. Enfin, voilà.
Mmh.
Donc, je pense que venir en fait dans la salle, pouvoir entendre du son, du vrai son, on est à... Parce que c'est avec une grosse sono, avec le corps qui vibre, ça va pas se perdre. Et je pense que, enfin voilà, pour avoir fait plusieurs, enfin avoir eu la chance du coup de faire plusieurs sorties de résidence, ça se fait très bien, quoi. Donc je m'inquiète pas trop, et la pareil, ça fonctionne bien aussi. Donc, le public, en tout cas, répond présent.
Il reste encore des places
Encore des places, ouais.
Ok, donc pareil, à mon avis, dépêchez-vous.
Ouais, mais en fait, c'est un petit peu, étant donné qu'on est sur des petites quantités de places, en tout cas pour l'instant, puisque Kit Francescoli, il y aura un petit peu plus de places que sur les précédentes, étant donné que on passe au 9 juin, on passe en jauge un petit peu supérieure, ouais. On passe de 35 à 65, donc voilà. On augmente un petit peu notre capacité pour accueillir le public. Donc
Et du coup, la configuration restera
en gradin,
ouais.
On a choisi vraiment de. Contrairement à ce qu'on avait choisi en septembre avec ce cabaret dans le hall, là, on a vraiment choisi de garder la carène en mode gradin. Alors, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup d'auditeurs qui ont déjà vu la carène en formule gradin assis. Ça change la salle.
Oui, j'imagine. Ouais. Moi personnellement, je l'ai jamais vu comme ça, et j'avoue que je suis curieux.
C'est autre chose. Après, il y a vraiment. Enfin, faut se dire aussi qu'il y a une qualité aussi d'être, enfin, de voir l'artiste encore plus près, en fait, finalement. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une autre expérience.
J'imagine.
Mais, où l'écoute, je sais pas comment vraiment le décrire comme ça, mais ça amène une écoute particulière et des sensations aussi différentes, quoi.
Ouais, une écoute peut-être plus attentive, en fait.
Alors ça, on l'avait déjà remarqué même en mode cabaret avec un public assis, finalement d'être assis, d'être focus sur les artistes et sur la scène, ça amène une écoute particulière. T'as totalement raison.
On va continuer de dérouler un petit peu les annonces. Il me semble qu'il y a Victor Solf aussi qui est programmé.
Victor Solf, qui est en pleine promo en ce moment. On parle beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais Victor Solf, c'était ce binôme que faisait Heur, qui a eu une fin un petit peu tragique puisque son acolyte Simon est décédé l'année d'avant, en fait, d'un cancer. Et Victor Solf avait fini. On avait reçu Victor Solf en 2019 sur son dernier concert de Heur avant ce grand final au Zénith de Paris. Et c'était un moment hyper émouvant. Je crois que c'est un des plus beaux concerts de 2019, moi, que j'ai vu dans la salle. Enfin, c'est très très beau, c'est de la pop soul. Il a une voix magnifique, Victor Solf. Il a une vraie communauté aussi dans le coin. En plus, il vient de s'installer pas très loin, sur la côte nord.
On ne donnera pas son adresse quand même.
Je me tairai.
Et ça, ce sera quand?
C'est le samedi 12 juin à 20h30, en gradin, assis aussi. Et ça c'est pareil, faut pas tarder parce que on sait que ça sera complet. Victor Solf, c'est certain, quoi.
Ouais, vu la communauté qu'il suit et vu la qualité de la musique proposée.
Et puis Victor Solf, là, il est vraiment en pleine actualité. Alors, je vous invite à aller regarder là ses derniers clips qu'il a tournés dans le coin et à retrouver d'où le point de vue est, d'où le point de vue est fait. Mais on voit bien le port de Brest.
D'autres groupes à annoncer?
Oui,
Mathilde,
alors qui ne sont pas encore annoncés sur le site, donc c'est un petit peu notamment un, on va avoir le concert, ça sera le mardi 22 juin, toujours dans la Grande Carène à 20h30, ça sera le concert de À la Ligne,
ouais.
Qui, alors pour moi, c'est un petit peu C'est un petit peu symbolique comme concert également parce que c'est le dernier concert qu'on a donné en mars 2020 dans le club de la Carène avant vous savez quoi. Et voilà. Et du coup c'est un petit peu, de les retrouver sur cette ouverture, c'est avec une petite variante, c'est-à-dire et pas des moindres, parce qu'on vient de finir une résidence en fait à la Carène avec Michel Coupe duo et puis Pascal Boisiz et Anaïs Glenaou et Lorraine Paillet, donc qui sont des chansigneuses. Mmh. Donc c'est cette adaptation en fait du roman de Joseph Pontus qui s'appelle À la ligne. C'est sur le travail en fait dans les usines, le travail à la chaîne. Donc qui est magnifié là par ces deux chansigneuses. Franchement, si vous n'avez pas lu le bouquin de Joseph Pontus, je vous le conseille fortement. Et là, cette sortie de résidence, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre les artistes et puis le chansigne. Enfin, vraiment, c'est super beau. Donc,
ouais, là encore, on vous conseille de rester au taquet hein, pour prendre des places.
Enfin voilà, moi ce spectacle, c'est un vrai coup de cœur. Et puis il y a ce travail aussi d'accessibilité qu'on continue de faire. Hein, c'était pas rajouter du chansigne parce que c'est beau. C'est beau.
Oui, c'est aussi beau aussi, mais c'est utile.
C'est beau aussi, mais voilà, c'est aussi rappeler que d'essayer toujours d'être le plus accessible, en tout cas possible, sur nos concerts et sur nos spectacles. Mmh. Ça a une vraie cohérence avec tout le texte de Joseph Pontus. Donc, je vous conseille fortement.
À voir, absolument, j'ai presque envie de dire.
Ouais, après, j'ai envie de tout voir, hein, mais.
Forcément.
Voilà, mais bon, ça, c'est particulier, c'est super visuel. Et je pense que ça s'adapte en plus, un concert assis d'une heure assis sur ce texte, ça, je pense que c'est quelque chose qui. Et en plus, si vous êtes abonné, c'est à 3€.
La belle affaire.
D'ailleurs. Ouais.
Ouais, non, vas-y.
Juste, parce que je rebondis sur le concert de À la ligne. On avait fait une résidence avec les artistes à l'automne dernier à la communauté d'Emmaüs.
Ouais.
Avec les compagnons d'Emmaüs, on avait créé en fait. On a créé un concert toute une semaine où ils ont travaillé les artistes et les compagnons et ils ont fait une restitution à la fin là-bas à la communauté qui était ouverte aussi au public. Et on a une expo qui va débuter à partir du 20 mai là à l'espace Emmaüs route de Gouesnou. Donc une expo photo, l'expo photo de Jean-Philippe Corr qui retrace un peu cette semaine et tout ce travail qui avait été fait avec les artistes que vous pourrez voir du coup à Emmaüs, à Gouesnou.
Est-ce que tu as d'autres concerts à annoncer ou je passe à une question qui risque fortement d'intéresser tous les Brestois, à savoir le bar?
Eh ben, pour l'instant, j'ai rien annoncé. Je sais qu'il y aura d'autres annonces à venir. Il faut savoir que cette année, on va quand même faire des concerts jusqu'au 10 juillet. Donc, on prolonge un petit peu
le plaisir.
Le plaisir, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Donc, autant le prolonger tant qu'on peut.
Bon,
Donc, il y aura d'autres annonces parce qu'on travaille notamment avec Astropolis sur. Il n'y aura pas un gros Astropolis, comme.
Comme d'habitude,
comme
j'ai envie de dire.
D'habitude, mais on veut quand même en tout cas faire et proposer des choses. Donc là, on est en train de travailler sur une programmation. Donc c'est un petit scoop.
Eh ben, vous serez obligé de revenir à Radio U.
Ouais.
On en parlera plus longuement.
Ouais.
Du coup, ouais, c'est ça, Mathilde. Dernière question, le bar, parce que je pense que tout le monde se la pose. Comment ça va se passer?
Comment ça va se passer? Eh ben, même nous, on se la pose aussi.
Okay.
Cette question du bar qui est quand même aussi très importante pour nous, parce que ça fait partie de la convivialité, on va pas se le cacher. Le bar, de toute manière, il sera, alors nous on n'a pas de terrasse hein, à la Carême. Mmh. On compte pas forcément en mettre pour l'instant, en tout cas c'est pas prévu tout de suite sur la configuration. Par contre, à partir du 9 juin il est prévu que les restaurants et les bars ouvrent aussi sur l'intérieur.
Ouais.
Donc à ce moment-là, on pourra ouvrir. Donc là, on est en train de travailler à voir comment est-ce que... parce que c'est pareil, hein, ça sera en assis. Donc on est en train de réfléchir à une configuration dans le hall pour pouvoir effectivement boire un verre avant, après le concert. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais en tout cas, on n'oublie pas le bar.
Oui, on peut rassurer les Brestois, le ouais. bar sera pris en compte, ça c'est sûr.
Voilà, mais après le 9 juin.
Ok, bah c'est
pas pour l'instant.
C'est
et
bien
c'est pour
noté.
Ça qu'on fait les concerts plus tôt pour que les Brestois puissent aller au bar après.
C'est ça, et on croise les doigts pour que le temps soit avec nous.
Oui, tu dis pour le 19.
Oui, tout à fait.
Mais a priori, il y a une fenêtre hein, météo.
C'est ça, d'un ou deux jours. C'est tout le monde mise là-dessus.
Ouais. Ben ouais, c'est pas. Mais sinon, voilà, je pense un bon parasol, des parapluies. Enfin voilà, il me reste hein, mon poncho de festival qui était en train de moisir depuis un peu plus d'un an dans mon garage. Bon, bah ben, là, c'est le moment de ressortir vos ponchos, les gars.
Voilà. On sait que de toute façon, c'est pas ça qui effraie les Brestois. Moi, je me fais pas trop de soucis pour nos amis restaurateurs et pour les bars. Eh ben, merci beaucoup, Mathilde, d'avoir
oui,
été
merci.
Avec
et
nous.
À toi.
Je rappelle que tu es chargée de communication ouais. de la Carène et que aller sur le site de la Carène, sur le site de la billetterie, parce que tout ce dont on a parlé, bah, ça risque de partir très très vite. Ouais. Et puis bah, c'était un plaisir de t'avoir avec nous au téléphone, Mathilde.
Ça me fait tellement plaisir de pouvoir reparler de concert,
ah, oui,
d'une ouverture.
Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Donc voilà. Et ben à très vite, tout le monde.
À très vite à la ouais. Carène. Merci oh, encore, ouais. Mathilde, d'avoir été avec nous.
Salut et bonne soirée à tout le monde.
Merci.
Ciao.
Alors c'est vous qui le dites, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alain Daoulas que vous avez entendu en première partie d'émission, qui est commissaire nautique du GPEN, le Grand Prix de l'École Navale. Rendez-vous sur le site internet du Grand Prix de l'École Navale pour les inscriptions qui, je le rappelle, sont ouvertes jusqu'au 5 juin. Mad Foxes, on va vous laisser avec leur titre Crystal Glass, puisque c'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une autre tranche d'information locale. Et d'ici bien 6 minutes, un petit peu moins de 6 minutes, ce sont les sportifs du lundi qui vont débarquer dans les studios pour parler bien évidemment de sport. Bonne soirée à l'écoute du 101.1 de Radio U. Songs and carry the curse. You wait till
my dear.